La courbe retombe, les vaccins arrivent, on est bientôt dans le monde d'après. Ça va être super différent. Rassurez-vous, c'est pas de ce monde déconfiné que je vais vous parler aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est d'appliquer les conseils de Gandhi. Puisqu'il faut être le changement qu'on veut voir dans le monde, voyons ensemble aujourd'hui comment créer une entreprise responsable, vertueuse et rentable, partant de rien. 800 000 boîtes ont été créées en France en 2019, en hausse de presque 20% par rapport à l'année précédente. Ça porte leur total à presque 4 millions. Alors, elle est pas belle la Startup Nation ? Bon, faut nuancer un peu. 96% de ces entreprises emploient moins d'une personne. Mais l'envie d'entreprendre, c'est un trait commun à plus d'un tiers des Français. Alors qu'est-ce qui retient tous ceux qui ne sont pas encore lancés ? Comment est-ce qu'on peut évaluer l'opportunité et les risques ? Et surtout, par où est-ce qu'on commence ? C'est ce qu'on va voir ensemble pas à pas aujourd'hui. Petite précision indispensable. L'idée qui va nous servir de fil rouge, elle sort pas de mon chapeau. Rendons à César ce qui appartient à Damien. Le pitch, le concept et l'initiative sont nés de son cerveau fertile. Et si la théorie, d'ailleurs notre exemple pratique du jour, elle vous intéresse, je vous renvoie à l'épisode 25 du podcast et je vous mets le lien dans la description. Rapidement, pour ceux qui connaissent pas Damien, tout a été écrit sur lui dans la Bible, le Kama Sutra et plus récemment dans la vidéo suivante.
Damien, c'est mon suppléant. Le mec qui est toujours prêt quoi qu'il arrive.
Ça te dit un tennis ?
Je suis prêt.
On fait un poker ?
C'est parti.
J'ai trouvé un site internet en tamoul codé par un ouzbek sur une plateforme libre bulgare. Est-ce que tu peux me l'adapter ?
Je m'y mets tout de suite.
Damien, c'est un serial entrepreneur en puissance, mais qui a jamais osé se lancer. Moi, je trouve que son idée qu'on va explorer aujourd'hui, elle est plus qu'intéressante. Alors surtout, n'hésitez pas à venir l'encourager ou à nous partager votre point de vue en commentaire. Je pense que vraiment, ça pourrait être le petit coup de pouce qui fait la différence à la fin. Pour commencer, il nous faut donc une idée, ou au moins une opportunité. C'est souvent un premier mur infranchissable et le fait que le concept d'idée soit mal compris y est pour beaucoup. La plupart de ceux qui rêvent de créer une entreprise un jour attendent de se réveiller un matin, de crier « Eureka !» et de filer tout nu à l'INPI déposer leur idée géniale. Parce que pour eux, une idée géniale, c'est un truc qui change le monde radicalement. Ils sont disruptifs. Startup Nation. Et puis il y a aussi un sacré biais du survivant qui nous fait voir les Elon Musk, Mark Zuckerberg et autres tonissiers de ce monde comme les prototypes du créateur d'entreprise. Pourtant, 90% des startups qui se créent en France échouent. C'est une statistique implacable et qui est d'ailleurs déjà nettement meilleure qu'il y a quelques années. Et une réussite, c'est pas un patron millionnaire. La plupart du temps, c'est tout simplement une entreprise qui se pérennise. Tout ça pour dire que même Elon Musk et sa Tesla, il a pas inventé la voiture électrique. Il a pris un truc qui existait depuis longtemps, la voiture, une tendance qui émergeait, l'électrique, et il l'a spécialisé sur un segment encore vierge, le luxe. Parce que si vraiment une idée, ça devait toujours être un miracle de Dieu, créé ex nihilo, on verrait beaucoup plus de gagnants du concours Lépine devenir extrêmement riches.
Cette année, la pince à roulette pour retourner les merguez du barbecue a enfin été inventée. Elle est en compétition sévère avec le presse-tube à dentifrice, la fin prévisible de bien des disputes matinales.
Donc oui, l'invention de rupture, ça existe, mais non, c'est ni la seule façon d'innover, ni même, et de loin, l'origine principale des idées. Le meilleur vivier pour créer une entreprise, c'est encore de s'intéresser à ce qui existe, et de préférence, à ce qui marche. Vous pouvez identifier un segment de marché ou un type de produit, et en améliorer la qualité de service. Ou encore prendre quelque chose qui fonctionne très bien dans un contexte, et le proposer dans un autre. Ou enfin, prendre deux tendances, deux produits ou deux services, et les faire converger ou les marier. L'idée dont on va parler aujourd'hui, c'est justement une idée de mariage. Un point de convergence entre deux tendances lourdes en action en France. La collecte en drive de courses faites en ligne, le fameux « cliquer et collecter », et la mouvance « zéro déchet » qui vise à réduire notre empreinte écologique.
How dare you ?
Bon, on est en 2020, je vous présente plus les drives. Et pourtant, il y a 10 ans de ça, il n'y en avait aucun en France. Imaginez la croissance nécessaire pour atteindre le chiffre de 5100 points de vente, et encore selon des chiffres de 2019, avant les deux confinements. Aujourd'hui, la vente en drive dépasse les 7% du chiffre d'affaires du secteur des produits de grande consommation. Et mon petit doigt me dit que l'année spéciale qu'on vit a sans doute pas atténué la tendance, bien au contraire. Avec cette part de marché, les drives français sont champions d'Europe et sur le podium mondial, derrière la Corée du Sud et la Chine, mais devant les États-Unis. Particularité française, cette part de marché est largement dominée par le drive, contre la livraison à domicile, avec un rapport de 80-20 entre les deux. Ce qui est plutôt l'inverse de ce qu'on voit dans les autres pays. Autre tendance lourde sur ce secteur de marché, il n'y a qu'un quart de la population qui les utilise. La pénétration est donc encore très partielle.
C'est ce qu'elle disait !
Michael ! Michael !
Et dans le même temps, il y a une saturation géographique des commerces, avec de moins en moins de bons emplacements disponibles. On a même vu, en réaction, un développement de nouveaux modes de drive, notamment les drives piétons. Du coup, il faudra appeler ça des woke. L'autre tendance qui nous intéresse, c'est donc celle du zéro déchet. Elle est en partie liée à la loi, avec l'interdiction des plastiques à usage unique prévue par l'Union européenne pour 2021, mais elle est surtout citoyenne, avec de plus en plus d'adeptes, soit par conviction écologique, soit comme nous à la maison, parce qu'on a oublié le jour des poubelles et que du coup, il faut survivre avec notre bac déjà bien plein jusqu'à la semaine suivante. Cette tendance a plusieurs composantes. Mais celle qui nous intéresse pour rester dans notre sujet, c'est celle des achats en vrac. Le principe est simple. Plutôt que de retrouver tous ces produits de grande consommation dans des emballages qu'il va ensuite falloir jeter, on peut les acheter directement dans la quantité souhaitée et dans le contenant réutilisable qu'on mettra dans nos placards. On trouve déjà un peu de vrac dans la plupart des grandes surfaces. Statistique personnelle, c'est 97% des fruits secs. Et évidemment, dans les épiceries bio. Autre statistique personnelle, 93% des personnes achetant en vrac en épicerie bio savent pas utiliser la balance et vous êtes coincé derrière. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires du vrac frôle le milliard d'euros, ce qui représente certes moins d'1% du chiffre d'affaires global de la grande distribution, mais quand même une croissance assez phénoménale, considérant que la barre des 100 millions d'euros n'a été effacée qu'en 2013. Le dernier point à vérifier avant de créer une entreprise, c'est de jeter un coup d'œil à la concurrence. Si vous êtes tout seul sur un marché, c'est généralement mauvais signe. Soit vous êtes extraordinairement plus intelligent que tout le monde, soit vous surestimez la force de votre idée. À l'autre bout du spectre, c'est tout aussi difficile de se faire une place si la concurrence est déjà féroce. C'est un peu comme si vous vouliez créer un Starbucks à Seattle. Il y en a déjà deux par pâté de maison. Est-ce que vous pouvez vraiment tuer le game en ouvrant un troisième? Pour ce qui est du drive rack, notre mélange de drive et de vrac, bonne nouvelle, ça a déjà l'air d'exister à petite échelle à plusieurs endroits en France. On est donc sur une tendance émergente, soit la vague va grossir et ce sera intéressant de le voir surfer tôt, soit elle va retomber en un petit clapotis et... Vous rappelez que 90% des startups échouent. Bref, à la confluence du drive et du zéro déchet, il semble bien y avoir une opportunité, donc on peut considérer que Damien et son drive rack cochent la case de cette première étape. Bon, puisque le mariage du drive et du vrac a l'air intéressant, on peut développer un peu l'idée. Il s'agit de proposer une commande en ligne de produits en vrac à retirer en drive dans un délai court et raisonnable. On aura des produits de filière courte avec l'ambition d'offrir un portfolio aussi large que possible pour couvrir tous les besoins d'un ménage. C'est une opportunité puisque ça repose sur deux piliers en croissance, le drive et le vrac. Mais une fois qu'on a dit ça, elle vaut quoi exactement cette opportunité? Une idée, ça devrait toujours avoir son dos de serviette. Vous savez, c'est ce moment où, au restaurant, vous prenez une serviette en papier et vous faites un calcul rapide pour vérifier ce que vous dit votre interlocuteur. Mais si, vous savez, un restaurant, cet endroit où on met les pieds sous la table et où on nous sert à manger. Bref, même si vous n'êtes pas au resto, ça marche aussi qu'un dos d'enveloppe ou un mouchoir. On va pas être sectaire. Si une idée a l'air foireuse dès le dos d'une serviette, vous serez épargné beaucoup d'efforts à peu de frais. Et inversement, c'est pas parce qu'une idée a l'air géniale en trois lignes qu'elle l'est forcément. L'aspect séduisant des résultats de ce premier calcul, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Allez, on va faire ce calcul pour le drive rack. Le marché global des produits de grande consommation est stable, voire en légère baisse, entre autres grâce à la chasse au gaspillage alimentaire. Pour les besoins du calcul, on va considérer qu'il est stable à 110 milliards d'euros par an. On a vu que le vrac représente un peu moins d'un milliard. Pour faire simple, on va donc arrondir à 1%. Dans le même temps, la part de marché du drive est d'environ 7%. Donc si on fait un premier croisement entre ces différents chiffres, 7% de 1% de 110 milliards d'euros, bah ça nous donne un potentiel de 77 millions d'euros. En considérant que le drive rack ne fait que remplacer l'existant, à l'intersection du drive et du rack, le potentiel actuel est donc de 77 millions d'euros annuels en France. Damien, lui, il habite à Strasbourg comme environ 1% de la population française. Son drive rack pourrait donc ambitionner dans cette hypothèse de départ un potentiel de 770 000 euros par an. Alors oui, on va pas se mentir, cette première hypothèse, elle est doublement fausse. Déjà, c'est certainement pas parce que 770 000 euros sont dépensés dans des achats de vrac en drive à Strasbourg chaque année que Damien peut ambitionner d'atteindre directement 100% du marché. Et surtout ensuite, parce que ça tient pas du tout compte du potentiel de développement du drive rack. On pourrait avoir des adeptes de drive qui se mettent au vrac parce qu'il est offert avec un meilleur service par le drive rack. Et inversement, des adeptes du vrac qui se mettent au drive. Voire même considérer que les consommateurs qui utilisent aujourd'hui ni les drives ni les vracs, eh ben ils pourraient s'y mettre. Et c'est probablement ce segment de la population aujourd'hui largement majoritaire qui nous offre la meilleure perspective de croissance. Estimer qu'ils pourraient se convertir, ça n'a rien de farfelu puisque les parts de marché du drive et du vrac sont en croissance exponentielle. C'est quoi la proportion des 75% de Français qui avaient jamais utilisé le cliquer et retirer début 2020 et qui s'y sont mis pendant un déconfinement? Eh ben il y a carrément moyen qu'ils y prennent goût. Cette analyse prospective, c'est à la fois le sel et le danger de notre réflexion. C'est rare qu'une nouvelle boîte réussisse juste en gagnant des parts d'un marché existant, donc il faudrait toujours avoir un potentiel à exploiter et à développer. Et en même temps, c'est un mirage qu'on appelle généralement les 1% de la Chine. Un fondateur amoureux de son idée se dit que si seulement 1% des Chinois adoptaient son produit, ça lui ferait plus de clients qu'il y a de Belges sur Terre. Alors on fait quoi? On se risque un peu de divination? Allez, c'est parti. On a un marché total, très théorique, de 770 000 euros sur Strasbourg. Comme c'est pas la cible prioritaire, puisqu'on va chercher à convertir des gens qui utilisent ni les drives ni les vracs aujourd'hui, mettons qu'on en gagne 5% presque sur un malentendu. Ça fait 40 000 euros annuels. On a aussi les gens qui utilisent le drive et pas le vrac. Rien qu'à Strasbourg, ça représente environ 77 millions par an. Mettons qu'on en attrape 0,1%. Ça nous fait 77 000 euros de chiffre en plus. Et enfin, on a ceux qui achètent en vrac, mais pas en drive. 11 millions d'euros de chiffre d'affaires à Strasbourg, dont on va s'attribuer royalement 0,5%, donc 55 000 euros. Ça nous fait un total de 172 000 euros annuels comme assise de départ. Et comme dit, la croissance, elle viendra des nouveaux consommateurs qui, pour l'instant, ne sont convertis ni au drive, ni au vrac. un bon moyen de vérifier rapidement si le chiffre est débile, c'est de jeter un coup d'œil aux boîtes déjà présentes sur ce segment de marché. J'ai trouvé une entreprise tout au poids qui a un profil ressemblant et qui en plus est basée en Alsace, ce qui gâche rien niveau pertinence. D'après son bilan 2019, publié sur société.com, elle réalise un chiffre d'affaires de 118 400 euros. Donc, notre ordre de grandeur paraît correct. Bon, on a un segment de marché, une opportunité, et on l'a chiffré au doigt mouillé. Mais ça nous coûterait combien pour nous lancer? Parce que bon, le potentiel c'est bien joli, mais il faut mettre les bonnes ressources en face pour l'atteindre. Pour évaluer ce coût, on va s'intéresser à trois étages de la fusée. Le produit, les canaux de distribution et la marque. Évidemment, avec un drive rack, on va faire de l'achat-revente. Donc on n'aura pas de produit à proprement parler, comme si on produisait quelque chose dans une usine. Mais notre drive rack lui-même, c'est un produit. Par exemple, si on veut proposer de la commande en ligne, il va nous falloir un site internet et peut-être aussi une application. Pour ce qui est des canaux de distribution, il va falloir choisir un local commercial ou une camionnette itinérante. Le potentiel de croissance est plus important dans le local en dur, mais l'investissement est bien plus faible avec une camionnette. Et enfin, la marque. Ça peut paraître idiot à ce stade, mais ça a son importance. Pour que quelqu'un me vende des pois chiches en vrac avec un site internet un peu branlant et dans un local pas complètement fini, ça va me demander une bonne dose de confiance. Et ça, c'est exactement le boulot de la marque. Bref, dans la vraie vie, il faudrait prendre tous ces points et les chiffrer. Et évidemment, ajouter la dimension du stock. Oui, on va faire de l'achat-revente, mais on va avoir besoin d'un peu de réserve et d'un fonds de roulement. Mais pour les besoins de notre exercice, je vais prendre un raccourci et me fier aux ordres de grandeur des boîtes existantes. Ce que j'ai trouvé en farfouillant dans les entreprises qui publient leur bilan, c'est un taux de marge, charge déduite et avant-salaire du gérant de l'ordre de 10 à 20%. Donc on va partir là-dessus. Avec notre chiffre d'affaires théorique de 172 000 euros, ça nous fait entre 20 et 40 000 euros par an pour payer le gérant. À ce stade, il y a une première décision à prendre. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce qu'on croit suffisamment au potentiel de croissance de la boîte pour investir autant de temps et d'efforts, prendre les risques associés et gagner peut-être que 20 000 euros par an? Si la réponse est oui, on avance d'une case. Si c'est non, ça peut valoir le coup de vraiment faire le calcul que j'ai enjambé il y a une minute en évaluant par exemple l'impact de l'amortissement. Maintenant, on fait quoi? On prend un rendez-vous à la banque pour souscrire un prêt? On va visiter des locaux? On part voir des fournisseurs? Évidemment, vous pouvez. J'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses. Mais à mon avis, ce serait une sacrée erreur. Vous avez vu que jusqu'ici, on a posé un paquet d'hypothèses. Il serait peut-être temps de vérifier si elles tiennent debout, non? On suppose ce que veulent les clients, mais on le sait pas. On subodore comment les trouver et quel service leur apporter. Mais en toute honnêteté, on n'a pas le début d'une preuve. Alors on fait quoi? On se monte une stratégie 2025 avec 3 implantations et 7 employés et on va la présenter à un banquier? Et si on est mort dans 3 mois, on remboursera notre prêt avec quoi? Des regrets? Alors bien sûr, il faut pas tomber dans l'excès inverse non plus et courir comme des poulets sans tête. Créer une entreprise, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Et ça demande à la fois une vision structurée et une grande flexibilité. Ce qu'on veut trouver aussi vite que possible, c'est un modèle économique durable. Ouais, j'ai essayé de franciser business model. Chaque créateur est libre de définir ça comme il veut. Il y aura sans doute une dimension de rentabilité, et peut-être aussi un impact social, environnemental, ou l'idée de construire quelque chose pour ses enfants. Pour trouver ce modèle économique, il faut résoudre une équation simple. Que veulent nos clients, et comment est-ce que ça peut nous rapporter de l'argent? À ce stade, on est comme Socrate, on sait qu'on n'en sait rien. Mais on peut formuler des hypothèses. Pour le drive rack, ça pourrait ressembler à ça. À choisir, mes clients préféraient être des consommateurs éco-responsables, mais uniquement, et ça leur demande pas d'efforts supplémentaires. Maintenant, il reste plus qu'à vérifier l'hypothèse en allant directement poser la question aux clients. Attention par contre, pas avec un questionnaire ou des clients fictifs, parce qu'il y a une grande différence entre ce qu'on voudrait tous faire en tant que consommateur et ce qu'on fait vraiment. À la place, on va monter une expérience pour tester l'hypothèse. On peut par exemple concevoir un site internet pour notre drive rack qui proposerait tous les produits disponibles en vrac au supermarché d'à côté ou à la ferme du coin. Ensuite, on va investir dans une petite campagne de pub Facebook ou Google pour cibler les consommateurs autour de chez nous et les attirer sur notre site internet.
Je déconne monsieur YouTube, évidemment, on va privilégier la pub Google.
Après, s'ils achètent, on va courir au supermarché et à la ferme, préparer leur commande et la ramener chez nous. Ah non, pardon, ça s'appelle plus chez nous, mais point de collecte. On prévient les clients que la commande est disponible et qu'ils peuvent passer la chercher. Et quand ils viennent, on leur propose, suivant la saison, un verre de vin chaud, un jus de pomme frais ou un thé vert, et on en profite pour leur poser un peu plus de questions sur leur vision de consommateur. De la même manière, ça va être intéressant de cibler ceux qui ont cliqué sur la pub mais qui n'ont pas acheté dans notre drive rack. Qu'est-ce qui les a arrêtés? Est-ce que c'est un problème de confiance? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de produits disponibles? Est-ce qu'ils préfèrent être livrés plutôt que de passer dans un drive? Avec les différents outils de ciblage et de tracking modernes, vous allez pouvoir rassembler ces données précieuses à peu de frais et vérifier votre hypothèse de départ. Si vous avez tapé dans le mille, vous pouvez envisager de faire grossir l'expérience. Et sinon, là vous pouvez continuer d'itérer jusqu'à ce que vous trouviez la bonne formule. Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille l'autobiographie de l'ancien patron de Zappos, Tony Hsieh, qui raconte comment ils ont appliqué exactement cette méthode. Et comment ils ont fini par revendre leur boîte à Amazon pour 1,2 milliard de dollars, à peine 10 ans après avoir lancé un site par lequel ils vendaient en fait les chaussures des magasins du quartier. Je sais que je vous ai dit de vous méfier du biais du survivant, mais c'est vraiment un chouette bouquin, et ça se lit comme un roman. Maintenant qu'on a validé à toute petite échelle notre hypothèse de marché, il faut affiner notre proposition de valeur. L'idée, c'est de construire un MVP, ou PMV en français, produit minimum viable. Cette version un tout petit peu plus élaborée de notre prototype de départ va devoir répondre à deux questions. Est-ce que Drybrak apporte de la valeur à ses consommateurs et est-ce qu'il peut grandir au-delà de ses premiers utilisateurs? Pour ça, on va mettre en place des boucles CMA. Ouais, je sais, pardon, encore un acronyme. C pour construire, en l'occurrence notre prototype. M pour mesurer. Ça peut être le taux de clic sur nos pubs, le pourcentage de conversion entre notre catalogue sur le site du Drybrak et les passages en caisse, ou encore le nombre de clients qui reviennent parce qu'ils sont satisfaits de notre service. Et enfin, A pour apprendre. Au-delà des chiffres, au début, on veut échanger le plus possible avec nos clients pour les comprendre de mieux en mieux. Et à chaque fois qu'on aura fini d'apprendre, on relancera une boucle de construction intégrant ces apprentissages. Je vais pas plus loin là-dessus pour aujourd'hui parce que ça fait déjà beaucoup d'infos. Mais avec un petit peu de méthode, on peut vraiment cartonner avec cette approche d'expérimentation rapide. Dernière étape avant de se lancer, le double choix du moteur. Double parce que vous allez voir que la question se pose deux fois. D'abord, il faut qu'on décide comment est-ce qu'on veut s'y prendre pour créer notre entreprise. Première option, tout faire soi-même. On part d'une feuille blanche, on crée un site pour le Drybrak et on le fait grandir au fur et à mesure. À un moment, on arrêtera d'aller acheter au cas par cas dans le supermarché ou la ferme d'à côté et on investira dans du stock. Et à terme, on investira soit un local, soit une camionnette. Le gros avantage, c'est que le risque est quand même très limité. On peut perdre du temps et un peu d'argent dans les phases d'expérimentation, mais rien de démesuré. L'inconvénient, c'est que ça va pas être rapide. Clairement, on n'est pas sur un cycle startup scale-up. Deuxième option, racheter une boîte. Soit directement un Drybrak, mais ça court pas les rues et c'est sans doute pas pertinent, soit un drive ou une épicerie de vrac, voire une supérette. Gros avantage, on a un outil prêt à l'emploi et on peut tout de suite attaquer à une taille conséquente. Mais il y a aussi deux inconvénients. Déjà, on pourra se permettre beaucoup moins d'expérimentation rapide et ça rendra un pivot presque impossible. Mais surtout, ça représente un gros investissement et donc un sacré risque. Enfin, troisième option, monter un partenariat. Par exemple, avec le supermarché d'à côté qui vous sert de stock. Lui, il vous garantit d'avoir toujours accès à de la marchandise, peut-être même un meilleur prix que le prix public, ou il vous fournira un espace de collecte pour votre drive. Mais en échange, vous allez devoir lui reverser une partie de vos bénéfices. Avantage, vous avez la logistique sans le risque. Inconvénient, vous n'aurez qu'une part du gâteau. Une fois que vous aurez fait ce premier choix, il va falloir décider comment vous voulez grandir. Là encore, il y a trois options. Première option, parier sur vos super fans. L'idée, c'est d'apporter un service tellement bon à vos premiers clients que vous allez les fidéliser instantanément. Et ensuite, au fur et à mesure, vous allez faire monter le panier moyen. En gros, vous allez leur offrir le meilleur achat en drive de pois chiches en vrac. Et une fois qu'ils auront trouvé ça si génial qu'ils envisagent plus de se passer de vous, vous essayez d'élargir ce qu'ils achètent chez vous. Et tout au bout de l'histoire, l'intégralité de leur course passe par vous. Deuxième option, la croissance virale. Cette fois, vos premiers clients doivent devenir des ambassadeurs. L'objectif, c'est pas tant de leur faire acheter plus chez vous, mais de les pousser à dire à la terre entière à quel point acheter chez vous, c'est fantastique. En gros, il va falloir que vous fassiez tout votre possible pour encourager le bouche à oreille. Et enfin, dernière option, la croissance payante. Là, vous allez reproduire à plus grande échelle la recette utilisée pour l'expérimentation rapide. Dirigée par de la publicité, toujours plus de clients sur votre page de conversion. Vu à la fois les marges pas mirobolantes du secteur dont on parle et l'aspect éthique, entreprise à mission du business qu'on essaie de créer, ça me paraît pas être la meilleure des stratégies, mais c'est vous le patron. Toutes ces options se défendent, honnêtement. Maintenant, si je devais conseiller Damien, je partirais sur une solution où on fait tout nous-mêmes, vu que le supermarché d'à côté peut de toute façon pas nous refuser une vente. Alors oui, on va probablement perdre un peu d'argent pendant la phase d'expérimentation rapide, mais on va collecter tellement d'infos à ce stade que ça vaut clairement le coup. Et pour ce qui est du moteur de croissance, je jouerais sur la viralité. La pub, comme dit, je pense pas que ce soit viable à long terme. Ça amputerait trop les marges. Et faire grossir le panier d'une poignée de super clients, je pense que ça limiterait trop le potentiel de croissance du concept, qui sinon me semble plutôt exponentiel. Donc, je miserais clairement sur la recommandation dès le début, en accompagnant ça d'une stratégie de contenu, histoire de créer une communauté et un ton de marque autour de notre entreprise à mission. Et surtout, j'essaierai de me donner tort à chaque cycle construire, mesurer, apprendre pour être sûr de jamais devenir sourd au retour de mes clients. Alors qu'est-ce qu'on attend ? On a une idée, une opportunité, une stratégie et on a même choisi un moteur de croissance. On lance ce Drybrak ? Il y a peut-être encore un dernier élément qui a son importance. Il faut avoir envie. Je sais que j'ai commencé en disant que, suivant les sondages, 30 à 50% des Français veulent créer leur boîte. Mais si on passe d'un potentiel de 30 millions d'entrepreneurs à 800 000 créations, c'est pas uniquement parce que 29 millions de personnes savent pas par où commencer. C'est peut-être aussi parce que le salariat, c'est confortable. Ça a une tonne de défauts, et de fait, si on bosse bien, ça construit la réussite de quelqu'un d'autre. Mais bon, matériellement, c'est plus rassurant. Paradoxalement, créer une entreprise, c'est souvent un truc qu'on fait plutôt quand on est au pied du mur. Il y a aussi une dimension culturelle. La culture de l'échec, en fait, c'est la meilleure source de réussite. Tant qu'on a peur de se planter, on hésite à se lancer. Et tant qu'on voit comme un fiasco le fait de pivoter et de changer son idée de départ, on s'entête avec quelque chose loin d'être optimisé. Et on se plante. La réussite d'un entrepreneur, mais aussi d'un vendeur, d'un business développeur et de bien d'autres corps de métier, elle passe par l'agilité. Alors même si vous vous lancez pas après cette vidéo, j'espère que je vous ai convaincu au moins de ça. Tiens d'ailleurs, on est sur YouTube, pas vrai ? YouTube, au départ, c'était un site de rencontre en vidéo. Mais dans leur boucle CMA, ils ont constaté que les vidéos que les gens mettaient en ligne, c'était loin d'être majoritairement des clips de lovers qui se présentaient à l'être convoité. Non, il y avait beaucoup de vidéos de chatons et de fêtes de famille. Du coup, ils ont pivoté et ils sont devenus ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors je me demande combien de vos amis, proches ou comptables vous parlent de créer une entreprise. Vous voulez leur donner un petit coup de pouce ? Bah, partagez-leur cette vidéo. Et ensuite, venez nous raconter en commentaire ce que vous pensez de l'idée d'un drive rack. Parce que Damien, si vous le poussez pas, il est exactement comme moi, il se lancera jamais. À bientôt.